Bonjour à tous, comme vous le savez sûrement, cette période est propice à la plantation des potagers et donc grand temps de bien différencier un fruit d'un légume. Alors pour les distinguer, vous allez voir, c'est très simple, c'est juste leur façon de pousser. Un fruit, c'est ce qui résulte d'une fleur après qu'elle ait été fécondée, comme la pêche, la poire ou la citrouille, alors qu'un légume, c'est la partie d'une plante potagère qui se consomme, avec des variétés pour les graines, comme pour les lentilles, ou des feuilles pour les épinards, ou des tubercules pour les pommes de terre, ou des pousses pour les poireaux. Le moment est bien choisi pour vous dire que vous êtes bien dans le podcast sur l'actualité du cinéma vu par des scénaristes. Bienvenue dans C'est quoi le pitch, épisode 27. Aujourd'hui, un programme qui nous fera voyager en tapis volant, puisque nous irons à Londres pour Rocketman, à Madrid pour Douleur et Gloire, avant d'atterrir à Agrabah pour Aladdin. C'est Guillaume au micro, et pour parler de tout ça, de tous ces films, j'ai ma petite équipe de princesses Disney, à savoir Claire et Marie, et nous avons une invitée, puisque Clara nous rejoint aujourd'hui. Alors Clara, question traditionnelle pour nos invités, est-ce que tu sais twerker ?
Bien entendu, Guillaume.
Merci, ça me fait plaisir. Au courrier des lecteurs aujourd'hui, un message d'une certaine Marine qui veut nous parler de Détective Pikachu. Elle nous dit, je cite, « Une fois n'est pas coutume, je suis d'accord avec Guillaume. » Donc déjà, c'est pas très gentil. « Je l'ai vu vraiment comme un film pour tout petit où tous les éléments sont expliqués, réexpliqués et même montrés. Mais l'intrigue n'a tellement aucun sens que toutes les explications supplémentaires étaient assez bienvenues. Et la scène de Monsieur Mime avec son humour super adulte est surtout un gros what the fuck si on considère la cible qui semble être visée par le film. Et vous n'avez pas parlé du gros plagiat de l'intrigue de Zootopia. » Guillaume, tu me déçois, ok, ça non plus, c'est pas très gentil. « Mais au final, comme dit Fiona, Pikachu est le meilleur acteur du film. » Merci Marine, et on vous rappelle que vous pouvez nous écrire sur le podcast de C'est quoi le pitch. On vous rappelle que ce podcast est 100% spoil et que chaque intervenant ayant le malheur de dire le mot truc entendra cette sonnerie et se verra retirer la parole immédiatement. Clara, puisque c'est ta première, tu as le droit à un joker. On commence avec Aladdin, écrit par John August et Guy Ritchie, inspiré évidemment des Mille et Nuits, écrit par on sait pas qui puisque c'est anonyme. Et c'est Marie qui nous le pitch.
Eh bien, pour le pitch d'Aladin, je vous conseille de revoir le dessin animé de 1992 parce que, en fait, à part quelques menus ajustements de l'intrigue, c'est à peu près exactement le même film. Bon, alors pour ceux qui, s'ils existent, n'ont pas vu, je précise donc l'intrigue. Orphelin, le jeune Aladin survit en volant de quoi manger et connaît toutes les astuces pour échapper aux gardes du sultan. Il vient un jour en aide à une jeune femme et découvre qu'il s'agit de la princesse Jasmine, habillée incognito. Il tombe amoureux d'elle, mais comprend qu'ils ne pourront jamais être ensemble parce qu'elle est riche et qu'il est pauvre. Il est alors recruté par Jafar, le consultant du sultan, afin d'aller récupérer au fond d'une dangereuse caverne une lampe, et plus précisément, une lampe magique dans laquelle vit un génie capable d'exaucer 3 vœux. Aladdin souhaite alors devenir un prince pour épouser Jasmine, mais entre ces deux identités si différentes, le pauvre et le riche, il ne sait plus trop bien qui il est.
Donc comme tu disais tout à l'heure, contrairement à Dumbo auquel j'avais loué, déjà j'aimais pas vraiment Dumbo, mais au moins je me suis dit, c'est pas un remake total, ils ont vraiment essayé de refaire le film, c'est pas la même époque, c'est plus Dumbo vraiment le protagoniste. Là, Aladdin, ils ont fait comme pour La Belle et la Bête, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment repris exactement le scénario du dessin animé, et ils ont mis des acteurs. Et déjà, moi j'avais énormément peur, parce que Aladdin, je vous le dis, c'est mon Disney préféré, c'est celui que j'adorais quand j'étais gamin, je trouve que tout était magnifique dans ce film, autant aussi la musique que le génie, et justement le génie, il y a eu un énorme bashing sur Will Smith, j'y ai pas participé mais j'en pensais pas moins, que je trouvais mais comment Will Smith peut faire le génie, et je sais pas ce que t'en as pensé Marie, mais honnêtement il est vraiment pas mal ce génie.
Je l'ai trouvé plutôt bon, j'ai trouvé que les effets spéciaux étaient assez réussis, parce que c'est vrai que ce génie qu'on connaît en dessin animé, enfin c'est ça en fait, qu'on remplace les acteurs par des, enfin les personnages humains par des acteurs, ça passe assez facilement. Enfin ils les ont bien trouvés, ils jouent bien, voilà. C'est vrai que le génie qui s'étire dans tous les sens, on se demandait quand même un peu comment il allait pouvoir retranscrire à l'écran. Finalement, Will Smith est assez peu dans le film en tant que acteur de chair et d'os. Il y a quand même une grande partie où il est un personnage 3D qui est plutôt bien foutu et qui reprend la truculence du personnage original. Voilà.
Oui, ce film est quand même beaucoup moins, j'ai envie de dire, dessin animé, j'ai envie de dire cartoon, que la version dessin animé, évidemment. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai regretté justement dans le génie, c'est qu'ils ont fait évidemment un personnage comique, mais il est beaucoup moins comique.
Il est plutôt réaliste en fait.
Enfin, réaliste. Ils l'ont rendu aussi réaliste que c'était possible dans un film de magie et de contes de fées. Parce que dans le dessin animé, on est obligé de le comparer. On a du mal à juger ce film pour ce qu'il est. On est forcément obligé de le comparer à nos souvenirs d'enfance de Aladdin. Et dans le dessin animé, le génie était extrêmement cartoon. Il pouvait se transformer en chien, il pouvait se transformer en lapin, il faisait absolument n'importe quoi. Alors que là, le génie, il a des pouvoirs spéciaux, on voit que sa taille est démesurée, des fois il est extrêmement grand, des fois il a une taille humaine, mais à part ça, et tout l'humour est basé sur ses danses et puis ses blagues, pas sur l'humour visuel. Comme pouvait le faire le Aladdin.
Je trouve un petit peu dur parce qu'il y a quand même de belles envolées visuelles, justement, où tu le vois faire des choses assez folles. Il y a toute la scène dans la caverne qui...
Oui, mais c'est pas drôle, ça. C'est une... Moi, je te parle vraiment de l'humour visuel et beaucoup l'humour, moins utilisé
oui,
avec
celui-là. Quand il se transforme en chèvre, j'ai l'image en tête, effectivement. Oui, ça, c'est... Effectivement, peut-être. Mais je trouve que, tu vois, par rapport à La Belle et la Bête, c'est encore plus fidèle. Enfin, il y a un côté dans ce film extrêmement fidèle. Et alors d'ailleurs, je voudrais préciser, je trouve tellement fidèle. En fait, ils savent tellement qu'on connaît l'histoire par cœur qu'ils vont même un peu vite au début.
Je suis totalement d'accord.
La scène, alors déjà, la rencontre avec Aladdin est extrêmement rapide. C'est-à-dire qu'on arrive à Agrabah, on le voit, on ne sait pas qui c'est, on le voit voler, puis direct. Enfin, en fait, il n'y a pas du tout d'installation du personnage. Et juste après, on voit Jasmine qui est en train de rien faire. Elle prend un pain, elle le donne à des enfants. Tu sais pas pourquoi, d'où ça sort, ni comment.
Oui, on ne sait pas qui c'est à ce moment-là.
On ne sait pas du tout qui c'est. On ne l'a pas vu du tout déambuler. On la voit juste déjà prendre le pain et le donner à des enfants.
Oui, parce qu'il me semble que dans le dessin animé, de mémoire, on la voit princesse qui dit « Je vais aller dans le... »
Elle
s'engueule avec son père. Elle dit « J'ai envie de vous rencontrer la populace. » Donc nous, on est en ironie dramatique, on sait que c'est la princesse. Alors que là, non, l'ironie dramatique n'est pas du tout.
Quelle est sa douleur ? C'est le fait d'être enfermée dans son château. On sait que voilà, elle est obligée de se déguiser pour sortir. Et elle se fait prendre bêtement parce que elle, comme tout lui tombe tout cuit dans les mains, elle voit des enfants qui meurent de faim, ça la traumatise. Alors que là, on est direct à la scène où elle est traumatisée par les enfants qui ont faim. Et à ce moment-là, on n'est même pas du point de vue d'Aladin quand tout d'un coup il arrive de nulle part pour la sauver. Et donc j'ai trouvé ça hyper rapide parce que tu ne sais pas. Bon, déjà que tu ne saches pas qui elle est, c'est. Tant pis, c'est pas trop grave. Mais que lui, tu ne saches pas, qui est quand même le héros principal, pourquoi il se mêle de cette histoire, pourquoi... Enfin, c'est ça qui lance tout le film en fait. Qu'est-ce qui l'attire chez cette meuf, ce qui l'interpelle, l'injustice qu'elle est en train de vivre. On ne sait pas du tout pourquoi. Quel est l'élément déclencheur de ce rapprochement finalement.
Et puis moi j'appelle pas ça de l'injustice, hein. Je veux dire, littéralement elle vole deux pains pour les donner à quelqu'un. Alors dans sa tête elle vole même pas parce que c'est une bourgeoise, elle sait même pas que c'est payant.
Oui, mais comme on a pas, c'est vrai, elle a l'impression que la bouffe c'est gratuit. Que c'était une bourgeoise, ben, elle paraît juste teubée. Quelle meuf pense que du pain ça s'achète pas en fait. Enfin, c'est
oui, mais
étonnant, c'est vrai.
Comme tu dis très justement, ils partent du principe que tu connais déjà l'histoire. Donc
c'est un petit peu dommage, voilà, j'ai trouvé que. Et également sur le personnage de Jafar. Sur la grotte merveilleuse.
Oui, exactement, au début, ça va extrêmement vite, c'est pendant la chanson d'introduction.
Oui, exactement.
Et on le voit envoyer, alors que justement la scène du dessin animé, encore, je compare encore, mais on voit, c'est une scène assez longue, entre guillemets, une scène normale, on va dire, où il pousse un mec dans la grotte
c'est
et on voit qu'il n'y arrive pas.
Dans le dessin animé, c'est terrifiant.
Là, c'est fait en 15 secondes. Et
c'est un peu bâclé. Voilà.
C'est un peu bâclé, exactement.
Je trouvais que c'était dommage de pas en jouer plus que ça, de pas prendre le temps de nous remontrer des scènes différemment au lieu de faire comme si mais enfin ils ont raison, on connaît toute cette histoire par cœur, mais mine de rien ça aurait nécessité un petit peu plus de temps, voilà, de d'écriture.
Bah c'est un temps d'exposition peut-être un peu plus long, mais pour revenir sur la nostalgie, moi j'ai fait la bêtise d'aller le voir en VO. Je sais pas si tu l'as vu en VO ou en VF.
Non, en VO.
Ah, et moi je l'ai vu en VO et justement j'étais très perturbé par les chansons en fait, parce que je reconnaissais les chansons que j'ai entendues des milliers de fois, mais j'entendais les paroles en anglais, du coup je ne comprenais pas, c'est très malaisant, j'avais un peu l'impression d'embrasser ma sœur. Je sais pas si ça t'a fait un peu cet effet là.
Non, moi je suis plutôt contente de l'avoir vu en VO, justement pour ça m'a permis d'être un peu plus à distance. Enfin, moi c'était vraiment un choix délibéré. Enfin, je.
Non, parce que moi je me suis rendu compte qu'en fait les sous-titres. Parce qu'en fait les sous-titres pendant les chansons te mettent les paroles de la chanson française qui n'ont rien à voir avec les paroles.
Par exemple, pour la chanson Ce rêve bleu, bah, ils ne disent pas du tout Ce rêve bleu.
Exactement. Et j'ai découvert ça.
Et les paroles originelles sont bien plus parlantes, bien plus intéressantes sur le désir de liberté, sur ce que ça raconte. Ça raconte mille fois plus que Ce rêve bleu. Quand on était gamin, on chantait Ce rêve bleu, ça ne voulait absolument rien dire. Bah, maintenant, je peux te dire effectivement, c'est de la merde.
Calme-toi avec Aladdin 92. Hein, quand
même. Ça a 27 ans. Alors, je voulais raconter quelque chose aussi. Quand je suis sortie de la salle, j'ai entendu des spectatrices qui se plaignaient du rôle un peu plus prédominant de Jasmine dans ce film.
Oui.
Et qui trouvaient que c'était vraiment de l'opportunisme de sa trajectoire émotionnelle. Voilà. Donc, pour résumer, en fait, Jasmine, c'est la fille unique du sultan. Lui, il pense que voilà, elle en a plus pour longtemps pour régner, et elle le supplie de devenir sultane à sa place. Enfin voilà, elle est née pour ça, pour régner. Et elle dit oui, mais tu comprends, la loi, ça fait 1000 ans qu'elle est écrite. Il faut que t'épouses un prince. Hein. Évidemment, elle, ça la fait pas du tout kiffer de devoir épouser un mec juste pour pouvoir régner sur son propre pays, quoi. Et à la fin, très belle trajectoire émotionnelle. Elle prouve que bah oui, personne n'est mieux placé qu'elle pour connaître son peuple et pour régner avec justice. Et on change la loi et elle devient sultane à la place de son père, quoi. J'ai trouvé que c'était plutôt malin. Moi, j'ai bien aimé cette trajectoire émotionnelle parce que c'est à la fois intelligent, touchant, mais ça reste un personnage secondaire et on reste quand même sur Aladdin qui est le héros porteur de cette histoire. Et j'étais pas trop d'accord avec ces meufs qui disaient oui, c'est de l'opportunisme, voilà, avec Me Too maintenant, ils se croient permis de remettre les meufs, enfin, comme si c'était pas sincère. Moi, je trouve ça sincère, c'est juste on fait plus des films maintenant comme on les faisait il y a 27 ans. Et je trouve ça plutôt rassurant, en fait, qu'aujourd'hui, on n'écrive pas les mêmes personnages féminins qu'il y a 27 ans.
Bah alors, je suis d'accord et pas d'accord avec toi. Je suis d'accord qu'effectivement, heureusement, on n'écrit pas les personnages féminins comme on écrivait il y a 27 ans. Même si Jasmine n'était pas juste une princesse en danger, elle avait quand même été active dans Aladdin. Je veux dire, au début, elle s'échappe pour aller rejoindre la populace. Et puis, à la fin, rappelle-toi, elle fait croire à Jafar qu'elle est amoureuse de lui. Elle avait quand même une action dans le film de 92. Là, justement, le fait qu'elle veut devenir sultane, j'ai pas de problème avec ça. Mais ce que j'ai le problème, c'est qu'en quoi ça va faire une meilleure sultane que son père. Enfin, quel est son programme, exactement? Elle sait même pas que le pain est payant dans la rue.
Ça, c'est vrai.
Elle proclame, moi, je serai une meilleure sultane. Ah bon?
En fait, l'histoire, c'est quand même qu'on lui propose des prétendants royaux venus des quatre coins du globe qui sont tous plus bêtes les uns que les autres.
Comme ça, c'est pour faire des alliances militaires. Il a raison, son père.
Bah, il a raison, mais n'empêche qu'elle dit si ces mecs-là dirigent notre pays, on va droit au mur. Et elle a raison. Il y a, en fait, ce qui est quand même intéressant, c'est que l'histoire d'amour d'Aladin et Jasmine, elle est pas possible aussi parce que elle doit se marier avec un prince. Et là où dans le film de 92, bah, on part du principe que c'est un conte de fées, il y a une princesse, elle doit se marier avec un prince. Point. En fait, on ne va pas plus loin. Ici, au moins, c'est un élément dramatique qui est un peu plus travaillé, qui a vraiment un début, un milieu, une fin, on sait d'où ça vient et on sait comment à la fin elle s'en défait. Je trouve que c'est pas juste poser un élément comme ça, genre bon bah c'est comme ça dans tous les contes de fées, donc basta, on s'en débarrasse.
Bon, alors...
Il y a un côté plus travaillé qui moi m'a plutôt touchée. En plus, ben voilà, je suis désolée, Jasmine c'est quand même le seul personnage féminin de ce film, quoi. Alors ils en ont rajouté une.
Il y a sa servante, oui.
Qui était plutôt drôle, voilà, même si elle doit avoir 30 ans de moins que Will Smith. C'est un peu dommage.
Juste avant de parler d'elle, là encore, je suis d'accord et pas d'accord avec toi. Je comprends totalement ses velléités de vouloir devenir sultane, mais de 1, je ne sais pas en quoi elle est légitime. Et 2, la seule chanson, parce que c'est quand même une comédie musicale, et les chansons, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais bon, ils ont gardé les chansons originales. Bizarrement, j'ai trouvé celle de Tu es mon meilleur ami moins bien dans le film et celle de Prince Ali un peu meilleure. Je trouvais que là c'était vraiment, il s'était fait plaisir, on voit tout le budget qui est passé par là. La seule chanson qu'il rajoute est justement une chanson qui va avec l'intrigue de Jasmine qui dit je veux devenir libérée, délivrée, et c'est vraiment ça. Elle se fait emmener par les gardes, donc Jafar, on est au moment où Jafar a pris le contrôle du sultan, c'est lui le sultan. Donc tous les gardes sont obligés de lui obéir parce que c'est le sultan, et là elle chante une chanson, mais c'est vraiment je suis une femme forte et libérée. Dans le clip, c'est une chanson imaginaire. Les gardes, les hommes qui l'empêchent d'accéder au pouvoir disparaissent en confetti.
Ouais,
et elle arrive.
Ouais,
et après, donc ça, c'est donc, la chanson, déjà, elle me pose problème. Et après, elle va voir donc, le chef des gardes et lui dit ouais, je sais que t'as juré fidélité au sultan, mais allez, mec, quand même, hein, tu sais que je suis meilleur que lui. Et le sultan,
non,
et le sultan change d'avis.
Non, moi j'ai
enfin,
trouvé.
Le garde change d'avis.
Bah, ça marche vachement bien parce que.
Alors, je trouve que ça marche pas du tout.
Alors. La chanson, le fait qu'elle se libère toute seule en chantant, effectivement, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est un moment un peu mal foutu, mal branlé quand même dans ce scénario. En revanche, cette histoire de garde, c'est le responsable des armées du sultan, ce mec. On le croise à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, à un moment donné, Jafar essaye de le corrompre et le mec lui répond « La loi, c'est la loi. »
Oui.
Genre, j'obéis à mon sultan.
Oui.
Et il est hyper carré. Et quand Jasmine va le voir et qu'elle lui dit « Mais c'est moi ta sultane », Ça a du sens. Enfin, quand parce que ça fait depuis le début qu'elle dit que c'est elle l'héritière légitime.
Et alors, c'est pas parce qu'elle le dit depuis plus longtemps que non. Là, c'est pas logique justement.
Ah, non, la scène, ça avait beaucoup de sens. Ah, moi, plutôt bien ficelé.
Ah non, moi, je trouve que en plus, ça sert à rien.
Mais oui, mais ça, mais moi, je trouve que ça marche bien parce que Jafar il s'autoproclame sultan, mais c'est pas comme ça que ça marche.
Mais alors, c'est comment que ça marche?
Bah, faut voilà, on reste dans un conte de fées. C'est la lignée, quoi. C'est le sang, c'est machin. Je suis l'héritière, donc c'est mon trône et puis basta.
Ah, mais non, je suis désolé, ça marche pas comme ça. À partir du moment où le garde dit, j'obéis au sultan, le sultan c'est pas elle, il obéit. Pas point, c'est pas, et c'est pas en chantant une chanson. Ça, moi, je trouve que l'intrigue de Jasmine, j'ai beaucoup aimé l'idée, mais je la trouve globalement ratée. Vraiment, sur tout le film, à part le début où je comprends qu'elle veuille aller voir sa populace parce qu'elle est persuadée qu'elle va être une meilleure sultane, je le répète, on sait pas pourquoi, on sait pas quel est son programme, à part que le pain soit gratuit. Agrabah va devenir communiste, ça serait une première pour l'Arabie, mais sinon, toute son intrigue ensuite, qui est de dire non, moi je suis une meilleure sultane. Parce que voilà, je suis sa fille, donc c'est encore la lignée du sang. Je suis meilleure
parce qu'elle connaît son peuple.
Mais d'où elle connaît son peuple? Elle est enfermée dans le château depuis sa naissance.
Non, mais en fait, oui, alors là aussi, on manque d'informations. C'est qu'on ne sait pas si régulièrement elle sort dans les rues.
Clairement pas.
Oui, parce que sinon, elle ferait pas une erreur aussi grossière, c'est sûr. Mais bon, c'est vrai qu'on ne sait pas trop quoi. Bon, il y a clairement un petit peu de scénario là.
Ah oui, non, moi il y a un problème. J'ai aucun problème avec le fait de remonter le personnage de Jasmine, mais je trouve qu'ils l'ont mal fait.
Et qu'as-tu pensé donc de l'intrigue rajoutée au génie où il tombe amoureux de la...
Étant donné que nous, spectateurs, on sait qui est Will Smith, on sait qui jouait le génie, et même si tu le savais pas, tu regardais le film, dans la dinde 92, le film commence par un marchand qui dit « Ah, regardez, j'ai plein de choses à vendre », et on est censé supposer comprendre que c'est le génie à la fin. La preuve, c'est que c'est Will Smith qui est sur un bateau qui parle à deux gosses. J'ai dit, attends, mais c'est le génie. C'est lui à la fin, c'est lui qui va finir. Donc, nous, vu. Enfin, pour moi, c'était une bonne idée, mais c'est raté de le montrer dès le début. Parce que dès qu'on voit le génie et qu'on voit la meuf, on dit, ah bah d'accord, donc ça va devenir lui sa meuf.
Je suis pas tout à fait d'accord parce que moi, j'ai cru que.
Qu'il allait épouser Jasmine.
Non, mais l'histoire commence, effectivement, on est sur un bateau, t'as deux enfants qui jouent, et puis leur père qui dit, ah, je vais vous raconter une histoire, l'histoire d'Agrabah, alors je sais plus trop comment le sujet vient à l'eau. Et on réalise plus tard que le génie, c'est lui. Mais pour moi, c'est comme tous les pères qui racontent une histoire à leurs enfants. Comment dire,
ils se voient dans le personnage.
Voilà, moi, j'ai pas pris ça pour argent comptant. Et c'est à la fin que je me suis dit, ah oui, effectivement. Voilà, peut-être que.
Je pense que t'es la seule spectatrice française qui avait pas compris ça.
J'ai trouvé que cette histoire. Cette histoire d'amour entre le génie et comment on peut appeler ça, la domestique de la
servante, oui.
La servante de Jasmine, était plutôt pas mal. Ça apportait de la légèreté et ça apporte de l'humanité. Et ça nous emmène quand même à la fin qui est un petit peu différente sur le fait que le génie devient humain. Ce qui n'était pas dans le dessin animé de 92. Dans le dessin animé de 92, il devient libre. Tout ça, donc il a plus de maître, voilà, donc c'est juste un être magique. Là, il demande clairement, effectivement, il veut être libre, mais surtout il veut devenir un humain pour vivre ce que les humains vivent.
Ah, alors il me semble pas que c'est dit dans le film. Hein.
Si.
Ah bon, à quel moment?
Bah, au moment où Aladdin dit, demande au génie, mais toi, tu t'aimerais quoi comme vœu, il dit, ah bah, moi, si j'aime, enfin, la chose que j'aimerais le plus possible, ce serait devenir libre parce que. Et il parle de l'humanité.
Je t'avoue que j'en souviens plus. D'ailleurs, on voit pas le rapport entre devenir libre et devenir un humain, mais bon.
Oui, alors ça aussi, c'est. Ouais, y a un petit.
Parce qu'il dit tu es libre et il se transforme en humain.
Tu es libre et il se transforme en humain, c'est dommage. C'est dommage.
Et alors, je voudrais savoir ce que t'as pensé, mais alors ça, c'est vraiment l'acteur de la crédibilité de Jafar. Parce que moi, Jafar, quand j'étais petit, me terrorisait. Une fois, j'étais venu à Disney, j'étais petit, le mec qui était dans le costume de Jafar m'avait fait peur. Là, on a un peu l'impression de voir Eric Judor avec une fausse barbe. Alors,
je suis d'accord et c'est marrant, j'en ai parlé à une amie aujourd'hui même et qui me disait que j'étais extrêmement. Bon, j'ai l'impression d'être passé à côté de ce personnage parce que il a une bonne tête. voilà, c'est con, l'acteur il est pas terrifiant comme l'était en fait le personnage de Jafar dans le dessin animé, est extrêmement anguleux, enfin à sa gueule, c'est rien que lui, il a pas besoin de parler, il fait flipper sa race quoi, alors que là effectivement dans le film c'est juste un acteur normal. Il manque peut-être d'un charisme ou d'une gueule qui soit un petit peu plus
Surtout que lui c'est vraiment un méchant Disney à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il est méchant. Ouais, méchant. Il a pas une once, non, c'est pas le mec qu'on explique sa méchanceté parce que non c'est le mal, c'est l'axe du mal, ce mec
il raconte un peu sa life, oui avant j'étais voleur et
ah oui c'est vrai qu'il lui a rajouté ça.
Et qu'as-tu pensé de Abou? Moi j'étais assez déçu du personnage de Abou,
je le trouve extrêmement moche et surtout que dans le dans le dessin animé encore une fois, il reste éléphant quasiment jusqu'à la fin du film. Là, en fait, il reste éléphant qu'une seule scène, et moi, j'aimais bien voir un éléphant.
Bah, c'est surtout, dans le dessin animé, c'est un personnage qui est vraiment poussé et qui est très touchant, très mignon. Il fait des conneries, mais il a une gueule hyper mignonne.
Ah, il en fait des conneries aussi.
Bah, ici, dans le film, il fait aussi des conneries, mais je le trouve pas très mignon. Et
ah non, c'est
très...
un singe.
Ben, c'est un vrai singe, en fait. Il fait un peu pouilleux, quoi. Enfin, j'ai trouvé que c'était un personnage un peu... Dans la conversion dessin animé, réalisme, prise de vue réelle, je trouve qu'il, lui, il avait pas gagné au change.
Ah non, moi, je trouve que là où on perd vraiment, c'est Yago, le perroquet, que j'adorais dans le dessin animé, parce que Yago, dans le dessin animé, en fait, c'est un humain qui est dans un corps de perroquet, en fait. Il parle exactement... Alors que là, c'est un vrai perroquet, ouais, c'est-à-dire que, dans le fait de rendre ça plus réaliste, entre guillemets, c'est un perroquet qui n'a pas des conversations humaines, mais qui dit que quelques mots, par contre, il résonne extrêmement bien. Charmant, il demande à Jafar, il dit, faut que tu les punisses. Punis-le, il dit. Donc vraiment, il a une réflexion humaine, mais il dit, allez jusqu'au bout, faites comme a fait Aladdin, où vraiment, tu pouvais discuter avec lui, il a une vraie discussion. Et après, d'ailleurs, il y a le retour de Jafar, le film, puis après, il y a le dessin animé que j'adorais quand j'étais petit. Et les mecs se sont rendu compte que Apu, bah, vu qu'il était muet, valait mieux quand même utiliser un personnage sympa qui parlait. Donc c'est pour ça que le perroquet devient gentil. Donc moi, Yago, ça a été ma petite déception.
Il devient gentil.
Oui, il devient gentil.
Dans le retour de Jafar.
Ah, mais je l'ai jamais vu.
Ah si, il devient gentil. Dans le retour de Jafar, il s'échappe de la lampe. Et en fait, il trahit Jafar. Il devient gentil. Ça devient un des potes d'Aladin et d'Apu. Il a... Ça devient un peu le Donald Duck, quoi. C'est-à-dire que le mec est un peu...
Ouais, c'est un drôle. Enfin, il fait toujours des bonnes vannes.
Ouais, voilà. C'était mon personnage préféré dans Aladin. Là, il est un peu dedans. Mmh. Et alors, on va finir. Je sais pas ce que t'as pensé de la bataille finale. Alors, il l'a toujours avec une astuce. Là, l'astuce, j'ai trouvé mieux faite que dans le dessin animé. C'est-à-dire qu'il insiste plus sur le fait. Ils lui ont mis des petites phrases genre si t'es pas l'homme le plus puissant de la salle, bah tu n'es rien. Donc c'est-à-dire qu'il arrive à le manipuler. Sauf qu'il le manipule beaucoup mieux.
Ouais.
Ouais, il manipule Jafar beaucoup mieux que dans le dessin animé. Mais la baston finale, j'ai trouvé moins bien. C'est-à-dire qu'ils l'ont focalisé.
Il n'y a pas vraiment de baston finale parce que je me rappelais que dans le dessin animé, Jafar se transformait en serpent.
Oui, voilà,
c'était hyper flippant. Il y avait un côté.
Mais oui, il essayait. Il y avait un côté on prend les épées, on y va. Là, ils ont remplacé ça par une course-poursuite avec la lampe qui est un peu jetée au-dessus d'Agrabah. Et puis t'as Yago qui se transforme en un aigle géant. Mais. Alors, j'ai trouvé la scène d'action qu'ils ont enlevée, j'étais déçu de ne pas la voir, mais ils ont remplacé ça par une manipulation mieux amenée. Et donc, je dis, bon, bah, c'est faire pour la scène. Parce qu'on a pensé. Et dernier point, le sultan n'est plus une espèce de petite patate rigolote qui faisait rire tout le monde. C'est un mec un peu, comme tu dis, il sent la fin venir.
Ouais,
il n'est pas drôle du tout.
Ouais,
mais j'aimais bien moi, le petit gros qui était mignon.
Je trouve que c'est plus réaliste, c'est plus crédible cette histoire,
réaliste,
voilà, ça marche pas mal. Et il y a des petits implants, on dit qu'il a perdu sa femme, que depuis qu'elle est morte, c'est pour ça qu'il interdit à sa fille de sortir parce qu'il a peur qu'il lui arrive quelque chose. On sait pas comment elle a été assassinée, on sait pas ce qui s'est passé, on se dit bah c'est peut-être Jafar qui l'a assassinée.
Ça doit être Jafar.
Ouais, on n'en sait rien. En fait, on commence à t'évoquer un peu une backstory pour ce personnage pour qu'on comprenne un peu mieux et du coup qu'on comprenne un petit peu mieux quand même Jasmine. Et en fait, c'est extrêmement, pour ne pas dire superficiel, enfin, dire c'est, il y a deux répliques quoi. C'est dommage en fait. On évoque des choses sur ces personnages et c'est carrément de l'évocation quoi. C'est genre au détour d'une phrase, t'as une information, en fait, elle te resserre plus jamais.
c'est un peu ça. Ouais, en même temps, c'est pas des informations vitales quoi.
Non mais autant pas les donner en fait. Enfin,
oui.
Quitte à pas s'en servir,
oui,
autant pas le faire.
C'est pas faux. Oui, Clara, tu as une question. Rappelons que tu n'as pas vu le film. Hein.
Oui, je n'ai pas vu le film, mais en vous écoutant, je suis un peu étonnée parce que ça s'appelle quand même Aladdin et vous ne parlez pas du tout d'Aladdin.
Bah
donc, est-ce que ça veut dire que le personnage est complètement incolore et phallo ou
non,
il est tellement fidèle au dessin animé que c'est vrai qu'on s'attache,
ouais.
S'attache au changement entre les deux films.
C'est ça.
C'est vrai que le personnage d'Aladdin, il est plutôt réussi, je le trouve touchant.
Oui, il a une bonne trajectoire.
C'est un beau gosse.
Il a un très joli sourire, il danse très bien,
il
a une scène de danse.
Il est extrêmement touchant quand il est tout seul. Puis il le dit, voilà, son seul ami, sa seule famille, c'est d'ailleurs une réplique excellente, il dit oui. Mon seul contrôle parental, c'est un singe. Tu comprends bien que ma vie est difficile. Donc en fait, il a des côtés extrêmement attachants. Ils en ont fait vraiment aussi un acrobate, un mec qui peut.
Ok, c'était déjà le cas. Hein.
Ouais, là, ça m'a. Peut-être parce que du coup, maintenant, en prise de vue réelle, ça m'a plus impressionné. Mais il fait des choses assez folles. Enfin, quand il se faufile dans le palais, l'endroit le mieux gardé de la ville, pour voir. D'ailleurs, attends, j'y pense, mais c'est un peu incohérent. Il rentre dans cet endroit hyper bien gardé juste pour aller voir Jasmine, mais le mec crève la dalle tous les jours et il n'est pas capable de voler un morceau de pain. Enfin, si, il est capable, mais c'est compliqué. C'est vrai que.
C'est vrai qu'il pourrait aller au palais piquer de la bouffe.
Et non, mais il va partir avec de l'argent. Parce qu'il vole juste un petit paquet de dattes et puis finalement, il le donne à des enfants dans la rue. Bon, il pourrait faire plus quand même. C'est oui. pas, il pourrait être un petit peu plus Robin des Bois. C'est vrai que.
Un peu plus. Mais t'inquiète pas, ça c'est le projet de Jasmine quand elle sera sultane. Elle a tout piqué aux riches pour donner aux pauvres. L'économie d'Agrabah va s'effondrer en un mois, mais. Bon allez, on arrête là-dessus, tour final sur ce film, Marie.
Ben, je dois avouer que j'ai passé un plutôt un bon moment. Un bon moment, j'étais assez. En fait, c'était à la fois la nostalgie d'un bon film du passé, parce que je pense que le dessin animé de 1992 est quand même un des plus réussis de Walt Disney, et à la fois des bonnes surprises, beaucoup d'émotions. Enfin, j'ai trouvé que c'était chouette. Ouais.
Bah écoute, pareil, honnêtement, j'en attendais pas mal le film, parce que comme je dis tout à l'heure, c'est mon Disney préféré, et ils ont réussi, ils ont respecté tout ce que j'aimais dans le film. Oui,
ce serait vraiment intéressant de connaître la vie de quelqu'un qui n'a pas vu le dessin animé.
C'est vrai, oui.
Je sais pas si ça existe, mais ce serait fou.
Ah bah si, la nouvelle génération, peut-être. Parce qu'il y en a, quand on parlait du début trop rapide, il y en a qui vont d'abord voir le film avant le dessin animé. Hein, et à eux, on pourra leur demander.
Ouais, dans 10 ans, on verra ça.
Mais, mais c'était un très bon film, et à revoir en famille, ça peut être très sympa. Allez, on enchaîne avec Rocketman, écrit par Lee Hall, à qui on doit Billy Elliot d'ailleurs. Et pour une fois, je vais donner le nom du réalisateur, parce que ça a son importance. C'est réalisé par Dexter Fletcher, et c'est aussi lui qui a réalisé Bohemian Rhapsody. Et on comprend pourquoi. Alors c'est moi qui le pitch exceptionnellement, parce qu'on est que trois aujourd'hui. Alors, le film commence dans une réunion des alcooliques anonymes, classique et sobre, hein, quand fait irruption un énergumène habillé en diable. Mais qui est-ce ? Mais c'est Elton John, superstar de la chanson que pas grand monde a l'air surpris de voir ici quand même. Elton John décide que, cette séance, c'est la sienne, hein, et il va raconter minutieusement sa vie à partir de ses 8 ans. Nous suivons donc le petit Reginald Dwight dans le Londres des années 50, ses premières notes de piano, son succès planétaire jusqu'à cette fameuse irruption sur les alcooliques anonymes. Alors Marie.
Alors effectivement, tu parles du fait que le réalisateur c'est le même que Bohemian Rhapsody. Alors Bohemian Rhapsody, hasard du calendrier, je l'ai vu il y a moins d'un mois. Et j'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé que ça ne racontait rien du tout et que j'aurais moins perdu de temps en allant regarder la page Wikipédia de Queen ou un documentaire. Là, je trouve que c'est moins raté. J'ai l'impression d'avoir appris plus de choses sur Elton John, mais je suis, comme toi, assez déçue. Alors déjà, du dispositif des alcooliques anonymes qui est assez grotesque, tiré jusqu'au bout avec des fantômes du passé qui reviennent, le mec enlève son costume de bout en bout pendant tout le film. Enfin, en fait, c'est assez téléphoné, en fait. Ça manque vraiment de subtilité. Et à la fois, sur le balayage complet de la vie d'Elton John, de sa naissance quasiment, enfin, on aurait vu le spermatozoïde de son père arriver dans l'ovule, c'était pareil, tu vois, jusqu'au moment où il arrive à cette réunion des alcooliques anonymes. Et tout ça pour ne pas vraiment traiter son traitement d'alcoolique. Enfin, on le voit à cette réunion, mais on a l'impression que bon, bah, il a parlé pendant tout le film, enfin, il a raconté sa life, et c'est ça qui l'a soigné. On ne le voit jamais en cure de désintox.
Un tout petit peu. Juste après, il y a une scène où il est en cure de désintox, avec une robe de chambre, il y a son
ouais,
parolier qui vient le voir.
Bah oui, c'est ça, et c'est la fin.
Et qui lui dit c'est dur, il fait oui, c'est dur.
Ouais, voilà. Sauf qu'on ne sait pas pourquoi c'est dur. Donc j'ai trouvé que tout ça est un petit peu superficiel et pas très subtil. Voilà.
Clara.
Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que son parcours pour sortir de l'alcool, pour moi, ce n'est pas du tout le sujet du film, et en fait, on s'en fout. Puisque c'est quand même...
Bah, la structure est basée là-dessus. Quand même.
Bah, ouais, moi, je suis d'accord. Moi, je ne trouve pas. Moi, je trouve pas la structure. Il est dans cette réunion d'alcooliques anonymes, mais il pourrait être n'importe où ailleurs. C'est,
c'est peut-être le problème. Moi, à quoi ça sert si ça ne sert à rien,
enfin... Ça sert juste, c'est juste une bascule vers le passé. De toute façon, on sait que ça va être une série de tableaux sur toute son histoire depuis son enfance à son adolescence. On sait très bien dans quel genre de film on va rentrer. On le sait d'autant plus que c'est un film qui a été adoubé par Elton John lui-même.
Il est producteur du film.
Voilà, donc de toute façon, ça va être une hagiographie.
Oui.
Après, moi, je trouve que c'est quand même pas mal foutu. Je ne me suis pas du tout ennuyée. C'est hyper classique dans la structure et même tout ce qui lui arrive est très, très classique. Enfin, c'est le parcours... du jeune prodige qui, d'un coup, ne va pas supporter la célébrité. Voilà.
Entre de mauvaises mains.
Oui, mais même, il serait tombé tout seul, hein, avec les ailes qu'il avait. Il serait cassé la gueule, de toute façon.
C'est beau.
Mais je trouve que il y a beaucoup de... C'est vivant. L'acteur est quand même très bon, j'ai trouvé.
Je suis d'accord avec toi.
Voilà, ah, il apporte vraiment quelque chose.
Il est surtout beaucoup plus beau qu'Elton John. Hein.
Oui, mais justement, on ne pense pas à Elton John, on s'en fout. Je trouve qu'il arrive à faire exister un personnage. Et
il est crédible.
Oui, voilà. Et je trouve qu'il a vraiment de la présence. Et surtout, ce qui m'a plu, c'est qu'il a l'air de s'amuser. Enfin, il fait passer quelque chose, une sorte de joie de vivre... et de légèreté que j'ai trouvé extrêmement agréable, d'autant qu'il décolle dans l'air. Donc
Non mais c'est que exactement ce que tu disais. Après, je me suis renseigné sur sa vie, Elton John. Est-ce que Elton John a une vie suffisamment intéressante pour en faire un film? Parce que comme tu dis, c'est une histoire extrêmement classique. C'est-à-dire, c'est ouais, l'enfant qui était très doué, on le voit, c'est, tous ses professeurs de piano sont épatés, et puis il fait un tube, et puis il tombe dans la drogue, il tombe dans l'alcool, il y a des histoires de cul, puis voilà. Est-ce que ça valait le coup de raconter ça en film? Si c'était pas Elton John, ça n'aurait intéressé personne, Marie.
Alors, là où moi j'attendais beaucoup de ce film, c'est que je trouve que la vie d'Elton John est assez intéressante. Il y a vraiment...
Ah, en quoi?
Alors, plusieurs points. Déjà, une des choses que j'ai énormément aimé dans ce film, c'est la relation entre Elton John et son parolier qui s'appelle Bernie. Ouais, c'est ça, Bernie. Et qui est... l'homme de sa vie. Enfin, en tout cas, c'est dans le film, on voit bien qu'il a une enfance extrêmement malheureuse. Personne ne l'aime, voilà, ni sa famille.
Si sa grand-mère l'aime.
Oui, vite fait. Enfin, oui. C'est pas.
Ah non, plus vite fait, elle l'aime beaucoup.
Ouais, enfin, bon. En tout cas, tu sens qu'il a pas une vie super cool. Il rencontre ce mec, et là, il y a un coup de foudre qui se passe entre les deux. C'est-à-dire que Elton John, il compose beaucoup, c'est un génie de la composition, mais il ne sait pas écrire de paroles de chansons. Et il rencontre ce type qui, lui, écrit des centaines de paroles de chansons merveilleuses, mais ne sait pas chanter, ne sait pas composer, rien du tout. Et il se passe vraiment une association parfaite entre ces deux hommes qui fait qu'après, ils vont devenir... Enfin, c'est ça. En fait, Elton John, sans son parolier, ce n'est pas Elton John. Et ça, c'est vraiment un point de vue exceptionnel, puisque aujourd'hui encore, ce mec-là, c'est toujours le parolier d'Elton John. Ça fait 50 ans qu'ils bossent ensemble, ça fait 50 ans qu'ils font des chansons ensemble. Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. J'aurais aimé qu'on me raconte l'histoire entre ces deux hommes, puisque en plus de ça, Elton John, à un moment donné, essaye de l'embrasser. Le mec lui dit, il le repousse en lui disant « je t'aime, mais en fait, je ne suis pas homosexuel, donc notre histoire n'est pas possible. On peut s'aimer que comme des frères. » Et à la fin, Elton John commence à... Enfin, c'est pas à la fin, c'est plutôt au milieu. Elton John commence à être un petit peu perdu à partir du moment où son parolier rencontre une meuf. Et il est hyper triste, voilà. Et c'est un peu le début d'une... il est un peu plus seul. Et finalement, ce mec-là, c'était la première personne qu'il a rencontrée, qu'il a aimé comme il est, pour ce qu'il était, et qu'il a accepté tel quel, avec tous ses défauts, ses extravagances, ses ambiguïtés, tout. Et à un moment donné, ils se sont perdus et ils se retrouvent à la fin, puisque c'est lui qui revient le sortir de sa cure de désintox. Donc j'ai trouvé que cette histoire, cette relation entre ces deux hommes était extrêmement passionnante, que ce soit dans un film comme dans la réalité quand tu regardes un documentaire sur Elton John. Ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et après, ce que j'ai aussi aimé sur Elton John, et je trouve que c'est évoqué, mais pareil, de manière beaucoup trop superficielle, c'est que ce mec-là, il a écrit des tubes fantastiques, et nous, on est un peu jeunes, mais on n'a pas... Enfin, il a commencé à écrire il y a tellement longtemps, il a fait des tubes... Enfin, il avait des genres, même des genres musicaux différents de ce qu'on connaît, nous, aujourd'hui. Et après, il a eu une traversée du désert de ouf. Enfin, juste, c'était un ringard total. Plus personne n'écoutait Elton John. C'était la loose.
Alors, ça, on le voit pas dans le film.
Mais oui, et il était dans les tabloïds tout le temps, voilà, il était en... Mais, l'histoire commence dans le film où c'est il est plus rien Elton John, et c'est enfin moi ce que je comprends
dans le film, mais ça commence, il est en concert, le film commence, il y a un concert, il se barre pour aller faire sa cure de désintox.
Donc moi j'ai cru comprendre que c'était plutôt au moment où sa carrière allait pas très bien.
Ah, mais pas du tout. Mais pour en revenir à ce que tu disais, moi j'adore les films, les biographies comme ça qui commencent par l'enfance, parce que moi je trouve que on ne parle jamais mieux de quelqu'un quand on voit son enfance. Mais là, son enfant, c'est ultra cliché, quoi. Et vas-y, papa, qui t'aime pas. Et quand il rentre de l'armée, c'est... va faire un câlin à Reggie. Non, je le câlinerai demain. Puis sa mère qui lui dit, même 30 ans après, j'aurais préféré accoucher d'un chien que de toi. Bon, ça, c'est Brigitte Bardot, mais ça m'a rappelé elle. Je veux dire, c'est tellement cliché, cette histoire. Et le problème, c'est que c'est peut-être vraiment arrivé.
Mais oui, mais
je
c'est
ne
pas,
sais
cliché,
pas.
C'est les parcours oui, mais... commandes des gens qui ont du
le problème,
succès,
ça manque de subtilité, je pense. C'est ça,
oui,
le problème.
Non, mais tous les gens qui n'ont succès n'ont pas eu des parents qui les détestaient à ce point-là, quoi.
Très souvent, si. Il y a un clairement qu'il y a une faille qui fait qu'ils ont besoin de se mettre autant au devant de la scène.
Mais qu'est-ce que, tu vois, cette faille raconte sur Elton John ? C'est ça que je ne comprends pas. C'est que, enfin, c'est... En fait, moi, j'ai plutôt eu l'impression qu'on essayait de me tirer les larmes un peu de manière superficielle et que ça ne me racontait pas grand-chose sur la suite parce que sa mère est odieuse jusqu'à la fin, mais elle disparaît pendant des parties entières du film. Enfin, c'est pas comme si... Voilà, j'ai trouvé que ce film manquait de point de vue. Si ce film avait raconté la vie d'Elton John par rapport à sa mère et en quoi, tu vois, sa carrière, tout ça, ça a été en relation avec sa mère, j'ai retrouvé ça fantastique. Mais là, en fait, c'est... ça parle un peu de ça, mais pas que de ça. Ça parle de plein de choses, mais finalement, j'ai trouvé que vraiment ça manquait d'un angle plus précis, peut-être d'une temporalité plus courte, même si je comprends, Guillaume, que tu préfères des films qui s'étalent longtemps. Mais en tout cas, ça manquait d'un truc un peu plus...
Aïe. Clara.
Non, mais je suis d'accord avec toi. Je trouve aussi que ça manque de point de vue. Et je trouve qu'il y a des choses toutes bêtes, mais qui ne sont jamais traitées. Par exemple... C'est acquis que Elton John a des costumes complètement délirants. Et même quand il est jeune, il est déjà habillé d'une façon totalement délirante, alors qu'il est censé être très timide et pas à l'aise avec sa sexualité. Et ça, je trouve qu'on aurait dû... à aucun moment, aucun personnage dit « Mais t'as vu comment t'es fringué ?»
À un moment donné, son parolier lui dit « Mais t'as besoin de mettre des costumes aussi fous ?» Mais c'est vraiment, on est vraiment très loin.
Mais déjà, déjà, quand il se balade dans la rue, il est déjà dans des tenues pas possibles. Et c'est vrai que c'est intriguant, ça. Moi, je trouve que c'est quelque chose sur sa personnalité que j'aurais aimé comprendre.
Tu vois, comme Aladdin, on part du principe que c'est acquis. Et finalement, c'est des choses qui mériteraient complètement d'être traitées. Et... de nous donner des éclaircissements sur ce personnage, en fait, puisque c'est vraiment un personnage presque historique. Enfin, on se dit qu'est-ce qu'on va bien pouvoir apprendre au final.
Bah, apparemment, ses costumes viennent d'un personnage dont j'aimerais qu'on parle, qui s'appelle John Reed, donc qui joue le rôle du manager.
Alors, est-ce qu'on peut dire quand même que dans tous les films de musique, apparemment, admis qu'il y a un manager méchant.
Alors, c'est exactement ce que je voulais dire. J'ai l'impression qu'au cinéma maintenant, si tu veux faire un rôle de méchant, t'as deux rôles principaux, t'as le nazi et le manager. C'est les deux rôles où t'es sûr de faire ça. D'ailleurs, cet acteur, je l'ai pas reconnu. Il est joué par le mec qui joue Robb Stark dans Game of Thrones, qui est incroyablement
et
beau.
The Bodyguard aussi.
J'ai pas vu. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que ce mec-là, donc John Reed, dans la vraie vie, a aussi été le manager de Freddie Mercury. Et ce personnage, John Reed, existe aussi dans Bohemian Rhapsody. Et il est joué par qui ? Par Littlefinger. Donc un autre acteur qui est dans Game of Thrones. Sauf que dans Bohemian Rhapsody, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le gentil manager. C'est-à-dire que c'est lui que Freddie Mercury vire pour prendre le méchant, le mec qui lui a ruiné sa vie. Sauf que ça, c'est le point de vue de Freddie Mercury. Mais le point de vue d'Elton John, c'est que c'était lui le méchant, en fait. Donc on ne sait pas qui est ce mec, en fait.
Et d'ailleurs, je trouvais que par rapport à ce rôle, ce film-là faisait vraiment règlement de compte, quoi.
Ah oui.
C'est-à-dire, c'est un personnage qui est traité sans subtilité. Tu vois venir à 1000 km qu'il est méchant, qu'il va lui faire du mal. Il lui fait du mal jusqu'au bout, mais c'est horrible, quoi. Le mec se fait sucer devant lui par son assistant Elton John. À chaque fois, il lui dit « Je vais te quitter ». Puis il le quitte jamais parce que, visiblement, il a signé une clause, mais tu sais pas quelle clause. Enfin, voilà. Et ouais. à la fin du film, pendant le générique, c'est écrit « Maintenant, Elton John a rencontré quelqu'un qu'il aime vraiment ». C'est dommage. Pourquoi on nous parle de ça ? Parce que, justement, tu vois, tu disais, Clara, tout à l'heure que le film ne parle pas de l'alcoolisme, mais alors moi, là où j'étais perdue, c'est que effectivement le dispositif mis en place de la réunion des alcooliques anonymes, bon bah c'est quand même ça qui lance le film. Et après, à la fin, justement dans le générique, c'est écrit Elton John est sobre et tout, donc ça arrive comme une conclusion.
Exactement.
Et donc,
je suis totalement d'accord avec toi, Marie. C'est que ce film, comme dit que tu ne parles pas de l'alcoolisme, ils l'ont structuré en disant, enfin pour moi, ce film, si tu commences par la réunion d'alcooliques et tu finis par ça. Le plus gros problème d'Elton John, c'est l'alcoolisme. Et d'ailleurs, quand le film se finit, t'as une ellipse de 28 ans dans un. Ça fait 28 ans qu'il est sobre. Et puis, bah, il a fait d'autres choses.
Mais ça montre bien que c'est pas le sujet du film.
Bah, si. Moi, c'est un dispositif.
Hein. Oui, mais c'est un... Mais d'accord, mais pourquoi ? Je veux dire, pour moi, ça... enfin, Elton John, justement, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut se méfier de la véracité des propos dans ce film, parce que il est producteur du film et réalisé par le mec qui a fait Bohemian Rhapsody, qui est truffé d'erreurs. Donc, ce film, enfin, comme tu dis, c'est une agiographie. Évidemment que. On ne sait pas ce qui est vrai là-dedans, mais en tout cas, moi je t'aurais été vexé, j'ai Elton John, donc à partir de ma cure de désintox, il m'est rien arrivé dans la vie, quoi. C'est terminé, c'est mes 28 ans de vie après, son adoubement par la reine.
Oui, donc ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai arrêté de boire de l'alcool, je n'ai plus eu de conflit dans ma vie, donc tout ce que j'ai vécu, je l'ai vécu à cause de l'alcool. Il y a
exactement.
Un côté...
Non, et en plus, ces conflits, pour moi, ne sont pas réglés. Je veux dire, il règle son problème de l'alcoolisme, d'accord ? Le problème avec ses parents, il ne l'est pas réglé, le problème avec son manager, il n'est pas réglé, et en fait...
Non, je ne suis pas d'accord, il se sépare de son manager.
Pas du tout.
Non, c'est écrit à la fin, mais c'est tout. En fait.
Non, j'ai regardé.
Il lui dit de quitter la maison
non.
et tout.
Oui, mais d'accord, il se quitte en relation amoureuse, mais pas en, en tant que manager. Alors que c'est lui qui l'a manqué. Il y a une scène où le manager est dans la voiture et il dit oui, quoi, il en a combien ? 250 concerts ? Vas-y, c'est plein, mais rajoute 110 de plus. Donc on nous montre qu'en fait, il le fait trop travailler, qu'il ne l'aime pas, qu'il l'utilise comme du bétail. Et à la fin, moi je me suis renseigné sur internet, ils se sont quittés en 98, je parle vraiment en termes de manager. Donc ça veut dire que cette intrigue n'est pas réglée. Il lui brise plus le cœur parce qu'ils sont plus ensemble, mais c'est, ça, ça reste le méchant qu'il est en tant que manager. Donc cette intrigue n'est pas réglée. Donc à part cette structure, pour moi, est une erreur. On aurait dû aller jusqu'à aujourd'hui. Parce que la fin de sa cure d'intoxication, à part son problème d'alcool, rien n'est réglé.
Marie. J'aurais aimé qu'on parle aussi des chansons, la façon dont sont mises en scène et utilisées les chansons. Elles sont, à mon sens, mises en place de manière... Enfin, de deux manières différentes. La première, extrêmement dramatique, enfin, je veux dire, intégrée dans la dramaturgie par rapport, comme si c'était une comédie musicale. Donc là, c'est toute l'enfance et l'adolescence de Elton John quand il n'a pas encore écrit ses chansons. Mais les personnages chantent les chansons d'Elton John.
Oui, ce n'est pas chronologique.
Voilà, c'est pas chronologique, mais ça raconte quelque chose sur ce qu'il vit en ce moment. Voilà, donc c'est vraiment comme une comédie musicale. Ce que j'ai trouvé qui m'a surpris au début, et je me suis dit, oh, mais c'est intéressant, enfin, c'est une manière quand même de nous raconter la vie d'Elton John avec les chansons d'Elton John, pourquoi pas. Et au bout d'un moment, à partir du moment en fait, où Elton John fait carrière, là, les chansons deviennent des morceaux classiques de ben, on le voit faire des performances sur scène et tout ça. Et j'ai regretté d'avoir les deux, en fait. J'aurais aimé qu'on ait soit l'un, soit l'autre. En tout cas, qu'il y ait un partie qui soit choisie entre ces deux manières d'intégrer les morceaux d'Elton John à la narration.
Alors là, je suis pas d'accord avec toi. Justement, je trouve qu'ils ont extrêmement bien équilibré le côté intra et extra-diégétique. On rappelle qu'intra-diégétique, c'est quand une chanson existe dans le film, c'est-à-dire que les personnages entendent cette chanson, s'ils allument la radio, la chanson est extra-diégétique. C'est la comédie musicale, c'est la musique qui n'existe pas vraiment, c'est les gens qui chantent. Typiquement, la scène où il est déçu par son père, puis il va chanter sur l'escalier, puis son père, puis sa mère, puis sa grand-mère chantent. Ça, c'est extra-diégétique. Et là, justement, là où ils ont été malins, c'est que la scène où il va dans le bar, où il va jouer du piano, puis il y a une bagarre qui commence, donc elle commence de façon intra-diégétique et elle passe en extra-diégétique où il y a une ellipse.
Ça, on le voit grandir. Je trouvais que c'était plutôt bien foutu. Ah, c'est des séquences vraiment bien faites.
D'accord, mais enfin, tu dis qu'ils voulaient mettre ces chansons, et il n'y en avait pas de chansons à ce moment-là. Ils ont voulu mettre les chansons de façon chronologique. Et en plus, moi qui pensais.
Non, ils ne les ont pas mis de façon chronologique, ils l'ont dit.
Ah bon ? Bon, alors je me suis trompé, parce que moi, honnêtement, je connaissais pas Elton John. Attends, je connaissais pas Elton John du tout. Et je me suis rendu compte, en fait, le nombre de chansons d'Elton John que je connais. Sans le savoir, comme quoi il avait vraiment impacté la culture pop, qui m'intéresse pas vraiment à la musique.
Il y a quand même une scène que j'ai trouvée absolument magnifique où Elton John fait une tentative de suicide. En tout cas, il prend des médicaments et il plonge dans la piscine. Pas de chance, voilà.
Et, c'est une mauvaise idée de se suicider devant 50 personnes.
Voilà, c'est problématique, c'est vrai. Mais en tout cas, là, il y a le passage où il est à l'hôpital, où les infirmiers dansent en même temps qu'il s'occupe de lui en ombre chinoise sur une musique d'Elton John. Enfin, c'était magnifique. J'ai trouvé que
c'était complètement pompé sur All That Jazz. Sur Bob Fosse, il y a des références sans arrêt à ce film.
Mais en tout cas, c'était là, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien géré. Et finalement, c'est dommage de ne pas avoir tenu ça jusqu'au bout, parce qu'il y a des moments, il y a des passages très longs du film où on n'a plus jamais de musique intra-diégétique, c'est ça, Guillaume ?
Oui.
Voilà, et ça devient juste des chansons, des tubes, quoi. Et il y a aussi des choses que j'ai trouvé vraiment dommage.
Si, quand ils jouent à concert, c'est une chanson intra-diégétique. Les gens écoutent le concert.
C'est pas intégré à la narration, c'est pas intégré à l'histoire. C'est pas vécu. C'est vécu comme. Il est en train de les interpréter sur scène, mais c'est pas vécu comme je suis en train de vivre ma vie. Et il y a cette chanson qui raconte ma vie mieux que personne. Et voilà, j'ai trouvé que c'était ce dispositif, ces deux dispositifs différents. J'ai trouvé que c'est dommage de ne pas avoir réussi à faire le choix entre les deux.
Bon, Clara, t'en penses quoi de ça ?
Je pense que ça aurait été compliqué à faire, parce que dans la mesure où il fait des concerts et il chante ses chansons...
Mais par exemple, si on avait pris Elton John complètement en cure de désintox, parce qu'il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est qu'à la fin du film, quand il est dans cet hôpital en train de passer le balai, parce que voilà, il peut rien faire d'autre que patienter en attendant de ne plus être alcoolique, il y a son parolier qui arrive et il lui dit « J'ai pas réussi à composer depuis que je suis là, j'ai pas retouché un piano, j'y arrive pas. » Et à la fin, il y arrive. Donc ça aurait été intéressant de se dire pendant tout, tu vois tout un film sur Elton John, il n'arrive pas à composer. C'est le seul moment de sa vie peut-être où il n'a pas réussi à écrire une seule parole, enfin une seule note de musique. Et à la fin, c'est ça la conclusion et ça marche. Et là, peut-être qu'on aurait pu intégrer toutes ces musiques à sa vie pour raconter sa vie sans le voir jouer.
Visiblement, Elton John n'a pas du tout eu envie.
Non. Elton John avait envie. Elton John avait envie que les gens admirent le fait qu'il soit devenu sobre. Voilà. Bravo Elton, bravo d'avoir réussi à arrêter de te droguer et de boire, et on t'applaudit.
Non, je ne crois pas que ça soit ça pour moi.
C'était une boutade, Claire.
Je l'entends bien, mais je pense que ce qu'il veut dire, c'est que malgré le manque d'amour dont il a souffert toute sa vie, il a réussi quand même à s'en sortir.
Grâce au piano. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas d'amour et qui ne savent pas jouer du piano, bah, tant pis pour eux.
Bah, c'est ça.
J'aimerais juste finir sur le fait, quelque chose qui m'avait énervé, qui a beaucoup énervé Fiona aussi, donc je vais te rendre hommage Fiona, c'est dans Bohemian Rhapsody, on nous faisait croire que bah, quand t'étais talentueux, t'avais pas besoin de travailler, ça t'exonère de travail, bah, là c'est la même chose. C'est-à-dire son parolier, avant ils sont virés de leur appart, donc il vit chez lui, il est sur la table de cuisine, il écrit une chanson, mais en one shot, c'est-à-dire une V1, il n'y a aucune rayure, c'est parfait, c'est la chanson Your Song, il le file Elton, Elton va se mettre au piano, il fait, allez quoi, 3, 4 fausses notes, et ça y est, il
mais
a
je
la
suis sûr que ça s'est
il
passé
a mélodie
ça,
parfaite. Qu'est-ce que t'en sais ? Est-ce que t'étais dans les années 60 chez Elton John ?
J'écris des chansons, je suis sûre que ça se passe comme ça.
Donc en fait, ce film te dit, si t'es pas un génie, bah abandonne, hein, ça sert à rien de travailler.
Soit c'est l'histoire d'un génie.
Alors j'ai trouvé que la différence avec Bohemian Rhapsody, c'est qu'effectivement, c'est un génie de la musique, et la musique n'a pas l'air difficile pour lui. En revanche, il y a quand même des conflits, c'est-à-dire, bah, par exemple, il ne sait pas écrire de paroles de chansons, donc ça c'est planté dès le début.
Il trouve le résultat extrêmement rapidement.
Seul, il ne sait pas faire de chansons complètes, paroles plus musique. Et au-delà de ça, il y a des conflits partout dans ce film. Là où Bohemian Rhapsody, non. Enfin, c'est-à-dire, l'homosexualité n'était pas un problème, le sida n'était jamais un problème,
L'homosexualité n'est pas spécialement un problème dans ce film non plus.
Mais
hein.
Il a d'autres problèmes. Il a des gros problèmes de cœur, des gros problèmes d'alcoolique, enfin, d'alcoolisme, c'est un personnage.
De cœur, il y a un mec qui lui brise le cœur.
Oui, mais c'est l'amant de sa vie.
Bah, clairement
mais
pas.
C'est,
hein.
Ce qui est vraiment dommage, c'est que, par exemple, leur relation n'est pas assez poussé pour que tu crois que ce soit.
Et puis comme tu dis, Marie, on le voit arriver le mec. Mais... Enfin bon, bref.
Et alors quand il se rencontre la première fois, il lui fait tout un laïus. Les gens parlent pas comme ça dans la vraie vie, quoi. Il y a des. Oh là là. Il lui dit Elton John, tu es inconnu pour le moment, mais tu vas voir bientôt, tu vas casser la baraque. Enfin,
d'ailleurs, ils ne se sont pas rencontrés à San Francisco, ils se sont rencontrés à Londres. Et c'est 3 ans après qu'il a accepté de bosser avec lui. On est obligé d'avancer. Tour final sur ce film, Clara.
Oui, je veux juste dire que celui qui fait le rôle du parolier, c'est assez drôle parce que c'est quand même le gamin qui faisait Billy Elliot. Et donc,
donc c'est le réalisateur de Billy Elliot. Oui.
Voilà,
très bien joué d'ailleurs.
Ouais,
très,
il est super comédien.
Super acteur.
Et je danse même pas.
C'est drôle qu'il soit passé du côté du type qui ne sait pas bouger, pas danser. Voilà, c'était un parcours de comédien qui est rigolo.
D'accord. Marie ?
Alors, j'ai passé quand même un bon moment. J'aime bien Elton John. Enfin, j'ai trouvé que c'était un bon moment. Après, j'ai vu un documentaire sur Elton John il n'y a pas très longtemps, genre 50 minutes inside. C'était quand même mieux foutu. J'ai appris plus de choses. Donc voilà, c'est ça, c'est un petit peu dommage.
Bon, très bien. Bah, écoute, moi j'ai trouvé ça sympathique sans être folichon. Voilà, je me suis étonné de savoir combien de chansons d'Elton John je connaissais, mais... comme tu dis, vaut mieux. Si on veut connaître la vie d'Elton John, on va regarder un documentaire qu'un biopic qui a été produit par l'homme en question. Quoi. Voilà. Allez, on enchaîne et on termine par Douleur, Gloire et Beauté. Hein, cette blague a été faite sur Internet, mais je l'avais inventée avant. Écrit par Pedro Almodovar lui-même, hein, et c'est Claire qui nous le pitch.
Alors, Salvador Mayo est un réalisateur vieillissant et qui est en panne d'inspiration. Un jour qu'il retrouve un ancien acteur à qui il n'a pas parlé depuis 30 ans, il commence à prendre de l'héroïne avec lui pour soigner son mal de dos et toutes les autres douleurs de sa vie. Par cette prise d'héroïne, le réalisateur va commencer un voyage dans son passé et peu à peu, celui-ci va le mener vers... Enfin, il va réussir à retrouver
vers la rédemption. Ouais. Claire.
Alors, moi, c'est un petit peu compliqué parce que les films d'Almodovar me laissent totalement indifférente.
Donc déjà, c'est mal parti.
Voilà. Donc, j'avoue qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas la façon dont il raconte les histoires. Je ne comprends pas pourquoi il met autant de temps à raconter aussi peu de choses. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment un mystère. Alors, des fois, c'est très agréable parce qu'il y a toujours des couleurs, des jolis costumes. D'ailleurs, là, les costumes sont magnifiques. Mais chaque fois que j'en sors, je me dis... Qu'est-ce que ça raconte ? Je suis incapable de le dire. Et c'est quelque chose que j'oublie instantanément. Alors là, celui-là, je trouve qu'on l'oublie un peu moins, peut-être parce qu'il y a une tristesse ou un sérieux qui change par rapport à d'habitude. Mais la façon dont c'est écrit, enfin typiquement le fait que ce type tombe dans la drogue et ça n'a aucune incidence, aucune importance, et quand il décide d'arrêter du jour au lendemain, il n'y a aucun souci, tout va bien. Bon, ça j'étais quand même un petit peu étonnée. Alors je comprends bien que c'est le moteur pour basculer dans le passé, mais que ça soit à ce point banalisé... M'a quand même beaucoup étonné.
Alors, pour venir justement sur ce que tu disais, de quoi le film parle ? C'est vrai que je vais te poser la question claire après, parce qu'on s'entend dans moi là-dessus avant qu'on rentre dans les détails. Pour moi, ce film disait, et en plus s'adressait à des gens comme nous qui sont plutôt des créateurs d'histoires, ce film dit, si t'as plus d'inspiration, espère avoir eu un traumatisme quand t'étais gosse, parce que sinon t'es foutu. Pour moi, c'est ça que ça veut dire, le film. Ça veut dire que si tu sais pas quoi écrire, dans ton histoire, tu trouveras toujours que, dans ton enfant, tu trouveras toujours quelque chose à écrire. D'où la fameuse phrase, je ne sais plus de qui elle est. Quiconque a survécu à son enfance a suffisamment de matière pour écrire toute sa vie. Claire.
En fait, ce que ça dit, et je pense que en tant que scénariste, c'est quelque chose qu'on sait, c'est que oui, dans ta vie, quand tu écris, tu t'inspires de ce que tu vis, en fait. Et c'est ça qui te... En fait, tout ce qui parcourt ta vie... va servir dans ta création. Après, c'est pas le thème principal du film, mais en tout cas, pour moi, c'est ça qui...
Alors, c'est quoi pour toi le thème principal du film ?
Mais c'est retrouver, se reconnecter à soi-même. C'est quelque chose comme ça.
En fait, c'est retrouver le passage qui va te ramener vers l'enfance. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il a perdu. Il a perdu le chemin pour revenir à l'essence de qui il est. Alors, il se trouve qu'il le retrouve dans la drogue. Et aussi dans la rencontre avec ce comédien avec qui il s'est fâché, et c'est pas très clair. Enfin, ça déclenche quelque chose. Mais ce personnage de comédien est complètement évacué sur le dernier tiers du film. C'est sidérant la façon dont il disparaît, même si bon, s'il est que prétexte. Mais
en fait, oui, je pense qu'il est. En fait, c'est des passages. En fait, j'ai l'impression que il avance de marche en marche, et en fait, on le suit dans un périple. Et en fait, à la base, on se dit que ça va raconter ça, son aventure avec ce comédien. Et puis finalement, en fait, au fur et à mesure, il nous prend un peu par surprise parce que finalement, ça va nous parler d'autre chose au fur et à mesure. Et enfin, je trouve que c'est assez beau, en fait, cette façon un peu de nous perdre.
Enfin, il parle quand même de sa mère comme dans 99,89% de ses films. Hein.
Bah, c'est son obsession.
Est quand même très limitée.
Oui, non, c'est vrai, sur sa mère, c'est limité, mais enfin, c'est sur avec son premier amour qui était addict à l'héro, et du coup lui-même devient addict à l'héro, mais pas vraiment. Enfin, il y a quelque chose, enfin, vraiment où presque recréer un lien avec lui, enfin. Il tente de recréer des liens comme ça avec lui-même, avec son passé. Il se cherche beaucoup. Et ce que j'aime bien aussi, c'est la façon dont il raconte un peu les histoires de façon différente. C'est-à-dire, il va les raconter en flashback, son enfance par exemple, ou toute la relation, la relation avec sa mère, quand il va parler, quand il parle aussi quand il était chez les en pension, etc. Mais par exemple, son histoire d'amour, on va la voir. Mais par le biais de l'acteur, c'est l'acteur qui va
raconter.
L'acteur joue le monologue de son histoire d'amour. Et enfin, je trouvais qu'en fait c'était hyper intéressant. C'est un peu des façons différentes de raconter les histoires, de nous montrer les choses. Et ça, c'était assez joli.
Surtout que c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé moi dans le film. On se rend compte à la fin. Je ne sais pas si ça sert à grand chose. Je vous demanderai après ça.
Oui,
mais c'est qu'on se rend compte que tous les flashbacks qu'il a eu en fait ne sont pas des flashbacks. C'est les extraits de son prochain film. C'est-à-dire qu'en fait, il nous montrait les extraits qu'on voyait avec sa mère, bah, c'était le futur où il allait déjà mieux.
Mais je trouve qu'on le comprend dès le départ, ça.
Ah oui ? T'avais compris ça dès le départ ?
T'as déjà vu une gare qui ressemble à la gare dans laquelle ils dorment, enroulée dans des tapis précieux ?
Non.
Ah, tu vois bien que c'est pas du tout réaliste.
Claire, tu l'avais deviné, toi ?
T'as raison, mais en fait, j'avais pas deviné. En fait, j'avais même pas compris que c'était une gare, pour tout dire.
Oui, moi, je me souviens même plus de la gare.
Je savais pas ce que c'était. En fait, pour moi, c'était... Je sais pas, je me disais, ils sont... Je savais pas où ils étaient, en fait. C'était un peu hors du temps, cette scène.
Mais concrètement, est-ce que vous avez trouvé que ça sert à quelque chose ? À part à la fin, moi, j'adore être surpris. À la fin, je fais « Ah ouais, ok, bien vu, j'ai été bluffé. » Par contre, j'ai fait « Mais est-ce que scénaristiquement, ça sert à quelque chose ?» Qu'en fait, c'était pas des flashbacks, mais que c'était des flash-forward de son prochain film.
Pas scénaristiquement, mais je pense que c'est un peu une façon de nous perdre aussi, de nous dire que, enfin, parce que tout le monde va se dire, ok, à quel point c'est Pedro Almodovar, à quel point c'est vrai, à quel point c'est faux, à quel point c'est inspiré de sa vie. Et finalement, c'est un peu ça qu'il nous raconte. C'est un peu sur les frontières de ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Je ne me souviens plus très bien de la mauvaise éducation, mais je crois qu'il y avait quelque chose comme ça aussi, quelqu'un se souvient, sur, oui, quand il raconte l'histoire, et finalement, tu te rends compte que c'est le film qu'il est en train de tourner.
Donc là, là déjà, tu as quand même Penélope Cruz qui joue la mère, bon, qui porte toujours la blouse de paysanne tellement bien. voilà, haute couture, blouse paysanne, haute couture.
Ah, je l'adore.
Voilà. Mais, quand on voit la mère âgée, elle a les yeux bleus. Alors déjà, d'office, on sait très bien que...
Ah oui, non, je ne m'étais pas...
Bah, t'as pas vu ?
Non, c'est vrai que moi, je me suis dit, putain, elle a mal vieilli Penélope Cruz. elle a
surtout,
pris cher.
Surtout, elle a les yeux bleus. Donc, on sait très bien que c'est une vision fantasmée de sa mère.
Ah non, je n'avais
absolument... En tout cas, une des deux est une vision fantasmée de sa mère.
Parce que justement, c'est ce que je me suis dit... donc là, le film se passe de nos jours. C'est pas aujourd'hui, qu'on peut considérer qu'il se passe en 2019-2020. Il dit que c'était il y a 50 ans. Donc, c'est-à-dire c'est les années 70. Bon, l'Espagne qui nous monte là, mais c'est l'époque des conquistadors. Hein.
Oui, mais l'Espagne sous Franco,
ils vivent dans une grotte. Ouais. Le moyen de locomotion de son père, c'est une brouette. Et comment ils prennent leur bain au milieu du salon. Là, je me suis dit, même époque, c'est-à-dire que ça se passe en même temps que Reggie White dans Rocketman, excuse-moi, à Londres des années 60, c'était comme
ça. Mais ça dépend où, en fait, Guillaume, dans les années.
Non, mais c'est pour ça que je me suis dit, c'est un petit peu fantasmé. Quoi.
Non, pas du tout. Mais l'Espagne est restée dans le Moyen-Âge jusqu'à la mort de Franco.
Et même en France, en campagne, jusqu'au début des années 90, t'avais des maisons où t'as de la terre au sol. Donc, c'est pas. En fait, ça dépend. Quand t'habites en ville, évidemment, mais quand t'habites en campagne, et qui plus est en Espagne, comme dit Clara. Évidemment que c'est pas du tout touché par la moderne.
Je rêve ou t'es en train de me traiter de bourgeois là.
Parisien.
D'accord, alors pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, sur le fait qu'évidemment plus le film avance, plus il arrive à s'enfoncer dans son enfance. Donc déjà, premier coup de chance, on va dire que c'est le premier coup de chance du film, il tombe sur son acteur qu'il a pas vu depuis 30 ans.
Non, c'est pourquoi tu dis qu'il s'enfonce dans son enfance, c'est toujours la même période de l'enfance.
À la fin, ce qui fait pour moi qu'un énorme Deus, il tombe sur le dessin qu'a fait le maçon chez lui 50 ans plus tard. Ouais, d'ailleurs, ça veut dire que puisque tout ce qu'on voit n'était que n'est pas son enfance, mais le film qu'il a tourné, ça veut dire qu'il a trouvé son sosie, comme l'acteur qui joue lui-même quand il était petit, hein, parce qu'il ressemble exactement à la peinture. Et d'ailleurs, il dit au mec, il arrive dans cette galerie, il dit « Est-ce que vous savez qui a peint ça ?» Le galeriste lui dit un texto « Non, on ne sait pas, parce que justement, on n'expose que des toiles de gens qui ne savent même pas qu'ils sont des artistes, il n'y a aucune chance de le retrouver. » Il fait « Ah d'accord, vous pouvez retourner la toile ?» Derrière la toile, il y a son nom, son adresse. Hein. Mais ça, non, ça n'a choqué personne. Bah, visiblement pas, bon, d'accord. Marie, je vois que ça t'a choqué, tu n'as pas vu le film. Non, ça vous a pas choqué, mais il dit « Non, c'est impossible de le retrouver, tu retournes la toile, il y a son adresse. »
Il n'y a pas son adresse,
il y a une lettre
à son nom.
Oui, mais clairement, il y a son adresse.
Non, il y a marqué « Cherche Salvador » et c'est tout. Il n'y a pas son adresse. Mais en fait, on s'en fout.
Mais non, parce que j'ai la fin des yeux quand il dit « Est-ce que tu vas essayer de le retrouver ?» Il fait « Non, non. » Mais attends, en termes de scénario, c'est un énorme Deus qu'en plus, ça soit cette peinture.
Mais c'est pas un Deus.
C'est évidemment que c'est un Deus.
Mais
puisque...
pourquoi ça résout rien ?
Mais si, puisque il fait le film sur... En fait, le dernier film, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il va parler de ce film, de ce premier choc qu'il a eu la première fois qu'il a vu un homme nu qui lui a fait comprendre qu'il était homosexuel. Donc ça veut dire que s'il n'avait pas trouvé cette peinture, il n'aurait pas eu ce souvenir qu'il avait quand il était petit, donc il n'aurait pas fait ce film.
Mais pas du tout, puisqu'il y a déjà des avant même qu'il trouve le dessin, il y a déjà des flashbacks avec l'ouvrier.
Mais pas du tout, c'est pas des flashbacks, puisque c'est le film qu'il est en train de tourner.
Mais c'est la même chose.
Non. Ah non, tu l'as dit toi-même, ce n'est pas Penélope Cruz, ce n'est pas sa mère. Les flashbacks ne sont pas des flashbacks, ce sont des flash-forward. Donc c'est-à-dire, s'il n'avait pas trouvé cette peinture, tout le film n'aurait pas existé, ce qui prouve que c'est un Deus Ex Machina.
Non, on n'est pas d'accord.
Expliquez-moi pourquoi alors.
Enfin, on s'en fiche en fait de ça, c'est une fable ce qu'il est en train de nous raconter. Il y a quelque chose de l'ordre du voyage, de la poésie, et de l'ordre de nous raconter une histoire. Tu ne sais même pas si ce que tu vois, si tout est vrai dans ce que tu vois en fait.
Donc, c'est pas un polar. Donc,
mais alors, c'est pas parce que c'est une fable que t'as le droit de Mais non, t'as pas le droit de dire c'est une fable. Même si c'est une fable, a le droit d'être construite logiquement.
Peu importe, parce qu'en vrai, ça fait 30 ans qu'il est passionné de peinture. Et qu'il doit écumer toutes les galeries. Donc peu importe, en fait, c'est construit. Mais en fait, de ça, on s'en fiche.
Je te dis que moi, s'il avait pas trouvé cette peinture, il n'aurait pas fait son film, donc il n'aurait pas résolu son problème.
Non, mais tu construis comme un truc logique et c'est pas logique.
Ah, il m'a fait des trucs, je suis désolé. Trop tard, de toute façon, on est obligé d'arrêter là. Ah oui, c'est vrai que t'avais un joker, oui, Claire. Oui, alors donc, Vinnie, finis ta phrase.
Oui, donc tu conçois ça comme une histoire logique avec des raisons et ça marche pas du tout comme ça.
Ah bon, ah bon. Enlève la logique, alors on peut plus critiquer un film, effectivement.
C'est une dramaturgie qui est proche de l'inconscient, du fonctionnement de l'inconscient. Donc, le fait qu'il voit cette peinture, ou ça n'a aucune importance.
Ah bon, d'accord. Bah, alors, à l'angoisse moment, on peut écrire ce qu'on veut. On peut écrire
mais n'importe Almodovar quoi. Écrit exactement ce qu'il veut. Il écrit ses films comme ça.
Et c'est pour ça que ça donne des films aussi mauvais. Alors.
Ça dépend.
Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant la façon dont il traitait cet âge-là, l'âge du personnage. J'ai l'impression de rarement avoir vu la vieillesse traitée comme ça au cinéma.
Il y a 50 ans, c'est pas vieux.
Non, il a 58 ans, il a presque 60 ans, il a des gros problèmes de santé. Et justement, tu vois, c'est traiter l'âge, c'est traiter ce passage d'âge-là. Personnellement, c'est pas quelque chose que j'ai déjà vu au cinéma sur les personnages. On sent vraiment la douleur de... Enfin, je sais pas, on a même pas parlé du jeu de Antonio Banderas alors qu'il a eu une récompense à Cannes. Et moi, j'ai vraiment été touchée par ce personnage, par sa façon, par la façon dont qu'il a de traiter de ça, enfin voilà, bref, peu importe.
Très bien, Clara.
Alors moi,
est-ce que tu peux nous parler comment tu as lutté contre le sommeil en
sur sur l'interprétation de Banderas? Franchement, je trouve qu'effectivement il fait le job, mais la palme, franchement, j'ai pas compris.
Oui, après, j'ai pas vu les autres. Voilà,
honnêtement, il joue très bien. Puis qu'est-ce qu'il est beau gosse et sexy, ce mec, c'est impressionnant quand même.
Oui, bon, écoute.
Non, Claire.
J'ai préféré son autre mec.
On est d'accord.
Ah, il est bien aussi.
On est d'accord.
Ok, ouais.
Alors moi j'ai pas été émue, alors que je sais qu'Almodovar fonctionne sur l'émotion, et moi je suis restée assez extérieure. Après cette toute fin sur la naissance du désir chez un enfant, ça j'ai trouvé ça très beau. Voilà, ce dernier moment comme ça sur ce maçon, comme ce qui, j'ai trouvé ça, c'était, il y avait beaucoup de sensualité et c'était un moment que j'ai trouvé vraiment beau dans le film. Mais je sais qu'Almodovar, il fonctionne en spirale, donc moi c'est un mode de récit qui ne me correspond pas, mais c'est son mode de récit. Donc soit tu rentres dedans et tu t'engouffres dans la spirale et jusqu'au centre qui est ce moment où il voit cet homme nu, soit tu t'y engouffres pas et du coup tu n'es pas dans l'émotion et tu restes à l'écart.
Ouais, mais ça je trouve ça trop facile de dire t'es pas rentré dedans donc tu peux pas comprendre.
Non, je dis pas que tu peux pas comprendre. Je dis que tu peux comprendre que des gens aient aimé et aient été touchés.
Je note absolument pas le fait que Claire ait été touchée par ce film. C'est juste qu'il y a des problèmes de logique dans ce film, c'est tout. Mais bref, on va s'arrêter là. Tour final sur ce film, Claire.
Oui, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'est un bon film d'Almodovar et je le recommande.
D'accord, Clara.
Moi, j'étais très gênée par l'utilisation de la drogue, enfin par la non-utilisation de la drogue, et j'ai trouvé que ça vraiment, c'était un peu limite.
Oui, c'est vrai qu'ils se droguent, mais comme tu dis, on peut arrêter du jour. Même l'héroïne,
en fait,
on peut arrêter du jour.
Pour moi, c'est un dispositif comme dans le Rocketman, du coup, où il utilise les alcooliques anonymes.
C'est vrai qu'à part Aladdin, tout le monde se drogue. Hein, mais écoute, moi, j'ai trouvé ça non pas mauvais, mais soporifique à souhait. Vraiment, première heure, mais j'ai dû faire des micro-siestes avec Doc Gynéco pendant tout le film. Et après, j'ai bien aimé la fin, parce que j'ai bien aimé le dispositif, l'espèce d'astuce qui fait, même si je ne suis pas rentré dans le monde en spirale, apparemment, de ce film. Donc on va s'arrêter là. Et on finit par les recommandations, les dérecommandations de la semaine, Claire.
Alors, je vais recommander une série de HBO qui s'appelle Barry. C'est sur un tueur à gages qui décide, du jour au lendemain, de devenir acteur. Okay. C'est trop bien.
C'est où est-ce qu'on trouve ça?
C'est HBO, HBO. Du coup, en France, vous pouvez le voir sur OCS.
Ok, Clara.
Alors, moi, je recommande le film des frères Dardenne, Je suis Ahmed, qui est le jeune Ahmed. Je sais pas, voilà, bah, du coup, je me suis tellement identifiée que... voilà, je trouve que c'est un très beau film, très intelligent. Et surtout, c'est la première fois au cinéma que je vois évoquer l'après Daesh. Et ça, je trouve que c'est un sujet passionnant. Voilà, il y a vraiment... C'est un beau film.
D'accord, Marie.
Moi, j'aimerais recommander une comédie qui est encore au cinéma actuellement, mais il faut se dépêcher pour aller la voir, parce qu'elle n'a pas très bien marché en France, je crois. C'est Long Shot, qui, fort malheureusement, a un titre pas terrible en français, c'est Séduis-moi si tu peux, qui ne rend pas du tout hommage à la comédie. C'est un film de Jonathan Levine, avec Seth Rogen et Charlize Theron, qui est extrêmement drôle, extrêmement touchante aussi. Les acteurs sont formidables et j'ai trouvé que c'était une comédie romantique qui est assez surprenante, enfin à beaucoup d'égards. On joue beaucoup, par exemple, de l'écart de physique entre ces deux acteurs. Enfin, l'une est une bombe absolue qui, en plus, est dans le film, est hyper intelligente parce qu'elle est première ministre. Et t'as l'autre, c'est un petit gros qui s'habille comme l'as de pique et il est plutôt intelligent aussi dans le film, mais enfin, il est jusqu'en boutiste. Voilà, je recommande vraiment cette comédie qui, je pense, jouit d'un mauvais concours de circonstances en France et qui, à mon avis, passera totalement inaperçu. Et c'est dommage.
Ok, bah moi je vais recommander un film qu'on aurait dû mettre au podcast cette semaine au lieu du Almodovar, mais personne ne m'écoute. Hein, Claire ? C'est John Wick 3. Donc évidemment, c'est le troisième du nom. Et ce film poursuit la lancée des deux, c'est-à-dire que c'est ni du premier degré, ni du second degré, c'est du 1,5 degré. C'est-à-dire que c'est un film qui a une espèce de recul sur lui-même et qui dit, on sait que les films d'action aujourd'hui ne peuvent plus être sérieux. Donc on va faire ni une comédie, ni un film sérieux, on va faire entre les deux. Et les scènes d'action sont absolument magnifiques dans ce film. Les couleurs sont parfaites. La scène du début où il tue un mec avec un bouquin, mais les gens applaudissaient dans la salle quand je l'ai vu. Et juste la scène juste après où il tue tout le monde, il tue des Chinois avec des couteaux, mais c'est absolument jouissif de voir ça. Il y a des très belles scènes dans le désert aussi. Après, c'est un film d'action, donc faut aimer les films d'action. Et à la fin, je croyais que ça allait être une trilogie, et non, ils sont en train de teaser un numéro 4. Donc celui-là, il sera au podcast. Hein. Je vous laisse pas le choix, parce qu'après, la qualité du 3, vraiment, allez voir John Wick, c'est vraiment un très bon film. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous rappelle que vous pouvez nous écrire sur le Facebook de C'est quoi le pitch. Et on vous dit à bientôt. Au revoir.
Jafar est vachement impatient de te voir.
Excellent travail, Yagour.
Oh, laisse tomber.
Non, c'est vrai, sur une échelle de 1 à 10, tu vaux au moins 11.
Oh, Jafar, c'est trop, ma grande. Arrête ton char, tu vas me faire rougir.